ce qui a modifié évidemment la pratique des enseignants en éducation aux médias et à l'information.
On a 45 absences pour ce matin.
C'est bien évidemment l'apparition des plateformes de médias sociaux.
Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre.
Sans école, il ne veut plus en franchir la grille.
Selon une étude, un quart des écoles ne propose aucune éducation à la sexualité.
Pour l'instant, l'institution ne prend pas la mesure du mal-être dans l'éducation nationale, ça c'est sûr.
Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde.
C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait.
Bienvenue dans l'heure de colle.
Bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous, sortez vos trousses et vos cahiers et bienvenue dans l'heure de colle. L'émission pilotée par les étudiants en master journalisme à l'ESJ Pro Montpellier et à l'université Paul Valéry. Je suis Sydney Basile et je suis votre animateur du jour. Dans cette émission, nous allons parler du sport et plus généralement de la place du corps à l'école. Le sport, en tant que matière scolaire, représente 2 à 3 heures par semaine selon les classes à l'école primaire, 4 heures en 6e et 3 heures pour les autres classes du collège et seulement 2 heures par semaine au lycée. Mais le reste du temps, que fait-on du corps dans le système éducatif français qui demande de rester assis une bonne partie de la journée? L'école contribue largement à la sédentarité des enfants, qui est pourtant une préoccupation de santé publique majeure. Selon l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, c'est 37% des enfants de 6 à 10 ans et 73% des jeunes de 11 à 17 ans qui n'atteignent pas les recommandations de 60 minutes d'activité physique par jour. Rappelons que la sédentarité, c'est le temps passé en position assise ou allongée dans la journée en dehors du temps de sommeil. Le manque d'exercice démarre dès l'enfance et de manière plus marquée chez les filles. Elles sont en effet plus nombreuses que les garçons à ne pas faire assez de sport en raison de la persistance de stéréotypes de genre, avec entre autres l'idée qu'elles seraient moins sportives que les garçons ou encore qu'elles seraient moins destinées à des carrières dans le sport. Alors, quelle pourrait être la place du corps à l'école pour tenter d'enrayer ce problème de sédentarité avec tous les risques associés qu'on lui connaît comme l'obésité ou le diabète? Est-ce que 2 heures ou 3 heures de sport par semaine, c'est assez pour être bien dans son corps? Et que peut-on lire derrière cette volonté d'éduquer le corps dans les programmes scolaires? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que nous allons poser à Fabien Gröninger, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation et membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation à l'Université de Montpellier. Pour m'accompagner autour de la table, Axel et Vincent qui vont mener cette interview avec moi et Camille qui dans la chronique « Ailleurs, c'est comment ?» va nous expliquer comment l'éducation physique est abordée au Danemark. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur le sport à l'école et la sédentarité. Si vous êtes prêts, l'heure de colle, c'est parti!
Tout le monde est déconnecté des univers qui ne sont pas les siens.
On fait preuve de transparence, d'autocritique. On essaie de n'oublier aucune question qui fâche.
L'interview.
Bonjour Axel, Vincent et Camille. Et bonjour Fabien Gröninger.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Pour commencer, peut-être un petit point sur les chiffres. On a listé en introduction le nombre d'heures de sport dans le primaire et le secondaire. C'est assez selon vous?
Alors, le problème de ces heures de sport, en apparence, quand on parle de 2 heures en lycée, par exemple, vous auriez pu aussi évoquer le nombre d'heures en classe préparatoire, et là c'est 0. Donc la première réaction, c'est que non, ce n'est pas assez, mais en même temps, quand on regarde 4 heures en 6e ou les heures de collège, là c'est plus important. Et si on regardait même les heures d'EPS à l'école primaire, on est sur un volume qui est tout à fait, j'allais dire, correct et qui est même au-dessus de ce qui se fait en Europe. Donc la question, ce n'est pas tant le volume, c'est le rapport qu'on a à ces heures d'EPS. C'est la facilité que l'on a à accéder à des équipements sportifs. C'est de quelle manière on voit cette éducation physique et sportive. Donc passer surtout en lycée et encore plus en classe préparatoire, ce qui témoigne d'un état d'esprit. Mais en même temps, ce n'est pas uniquement le problème, parce qu'on peut reconnaître qu'il y a quand même eu des efforts de fait. En plus, en histoire, dans l'histoire de ces heures dévolues aux activités sportives ou à l'EPS, on a même eu des moments encore plus importants, notamment après, dans les années 60, après les Jeux Olympiques, par exemple, de Rome. Mais, encore une fois, c'est aussi le regard que l'on a sur ces heures, la cohérence qu'on va leur donner et aussi la facilité que l'on a à s'organiser par rapport à cette injonction ou par rapport à ces programmations qui peuvent être des heures officielles de PS.
Alors, le principal objectif affiché dans les programmes scolaires, c'est le suivant: donner accès à tous au sport. Est-ce que, selon vous, c'est le bon objectif? Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre ou plusieurs autres à adopter pour que le sport ait vraiment son importance au sein de l'éducation nationale et dans les programmes?
Vous voyez, quand vous me dites le principal objectif, c'est donner à tous le sport, mes collègues professeurs d'éducation physique et sportive déjà diraient qu'on les enferme dans une activité particulière. Un sport, vous voyez qu'on a l'EPS, c'est éducation physique et sportive. Un enseignant d'ailleurs d'EPS déteste qu'on dise que c'est un prof de sport et souvent on le réduit à prof de sport. Donc, c'est beaucoup plus large. J'ai entendu qu'il y allait avoir un reportage sur les exemples en Scandinavie. En fait, j'ai envie de dire que la réflexion, elle est justement au-delà de l'activité sportive ou de l'éducation physique, parce que là, vous avez des tensions entre les enseignants dans ce qui est l'objectif ou la finalité. En gros, si on parle de sport, on va immédiatement parler de compétition, voire de résultats, voire de battre des records. Si on parle d'éducation physique, on parle d'autre chose. Et l'éducation physique et sportive en tant que discipline, c'est encore autre chose. Donc on pourra y revenir si vous voulez. Mais vous voyez que cette formule sport, elle peut être réductrice pour un certain nombre d'acteurs de ce sujet.
À ce propos, on met souvent en avant les belles valeurs associées au sport. Mais est-ce que le sport ne favorise pas aussi les inégalités, notamment entre filles et garçons? Par exemple, on voit rarement dans un établissement scolaire des filles faire du sport ou des garçons faire de la danse.
Alors évidemment, enfin non pas évidemment, c'est-à-dire les recherches ont montré qu'il y avait des stéréotypes de genre associés aux activités sportives. On sait, hein, dans l'éducation nationale, on a beaucoup de mal à pousser les jeunes filles, par exemple, à faire aussi des carrières scientifiques, à s'interdire. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès, même s'il y a, dans l'histoire de l'éducation physique et sportive, des finalités qui peuvent encore marquer peut-être les mentalités actuellement. Moi, je vois quand même un certain nombre de progrès réalisés. Et vous me demandez si les belles valeurs liées au sport. Alors effectivement, on a la même tension que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que certes, le sport, quand il est vu d'une manière large, éducation physique, certains vont y associer des valeurs nobles, mais d'autres, en revanche, quand ils se concentrent sur le sport, vont y associer l'ultra-compétition, le dopage, des dérives, et donc on n'a pas forcément toujours dans notre société une association entre sport et belles valeurs pour certains. C'est-à-dire que vous avez parfois une critique ou une condescendance vis-à-vis du sport compte tenu de tous ces éléments. Et en fait, là, l'opposition, elle se fait surtout entre le sport qui est vécu de manière compétitive. Au début du XXe siècle, certains parlent de gloriole, parlent d'ultra, enfin voilà, d'une volonté de compétition et de gloire personnelle, alors que d'autres vont vouloir plutôt, réfléchir autour de l'idée d'une éducation physique plus noble, plus douce. Mais là encore, avec, comme vous le dites, il peut y avoir des stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'on va associer à la pratique féminine certaines activités, et notamment dans le développement de certains sports, comme par exemple la balle au panier, qui est désignée. La balle au panier, c'est quoi? C'est le nom pour désigner le basketball. Et le basketball, au début des années 20, dans les journaux, on voit souvent des articles formulé de cette manière-là, la balle au panier, le sport de la femme. Si vous voulez, je vous en dirai quelques mots davantage, mais peut-être que vous avez d'autres questions.
Oui, également, c'est pour repartir sur les inégalités, notamment sur le sport. Est-ce que pour vous, le sport, ça contribue peut-être aussi à reproduire certaines inégalités sociales, notamment pour tout ce qui est les sports qui demandent plus de matériel, comme par exemple le tennis ou le badminton, là où les personnes les plus défavorisées n'ont pas accès au matériel adéquat?
Alors, là, c'est là où en France, on a une forme de... où on doit être fier, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut être parfois critique sur le nombre d'heures, tout à l'heure on l'a dit, consacrées à l'EPS. On peut être parfois critique sur la manière dont on a de hiérarchiser les apprentissages. D'ailleurs, de considérer que les apprentissages intellectuels en France sont supérieurs aux apprentissages corporels, par exemple. Mais, concernant... notamment le système français et le nombre d'heures liées à l'EPS, voire à l'UNSS, on a quand même une forme de démocratisation en France qui permet à des jeunes d'accéder à des pratiques sportives s'ils le souhaitent, notamment le mercredi après-midi via l'UNSS, de manière assez démocratique. Il y a toute une éducation populaire aussi qui s'est intéressée à ce domaine de manière à réduire les inégalités sociales. Vous avez aussi des acteurs privés, comme Faites le Mur de Yannick Noah ou des associations qui ont fait en sorte de donner la possibilité à tous de le faire. Ce n'est pas tout à fait le cas dans d'autres pays. Par exemple, en Espagne, vous avez peut-être une société qui est plus sportive, qui est plus tournée vers l'activité sportive, vers cette idée de compétition, avec un lien très fort avec les clubs. Mais là, il y a quelque chose qui peut relever des inégalités, dans la mesure où tous les jeunes ne vont pas avoir accès à ces activités, à ces clubs qui peuvent être payants, qui peuvent être relativement chers. Et c'est aussi un des éléments qui font qu'on revient dessus en Allemagne, par exemple. On connaît en Allemagne, souvent on met en avant le système allemand, les cours le matin, concentrés, l'après-midi du sport. Mais justement, il y a aujourd'hui une réflexion sur le fait que ça oblige les familles et les enfants à être autonomes l'après-midi. Et c'est les parents qui doivent prendre en charge l'activité sportive. Et c'est souvent très cher. Donc du coup, il y a une réflexion en Allemagne sur faire des cours toute la journée ou en tout cas intégrer l'EPS dans l'emploi du temps, y compris l'après-midi, parce qu'il y a cette dimension économique. Il y a cette dimension du paiement à un club sportif qui entre en compte.
Alors, plutôt dans l'interview, vous parliez notamment dans les années 60, dès les Jeux Olympiques de Rome, qu'il y a eu une prise de conscience, un changement. Il y a également eu, vous parliez également de la balle au panier dans le début des années 20, qui était assez représentatif comme un sport dit de femmes. Est-ce qu'en France, ça a évolué, l'histoire de l'éducation physique et sportive? Quelles ont été les principales évolutions? Est-ce qu'il y a aussi eu des discriminations liées à certains sports et à une représentation que ces derniers pouvaient véhiculer?
Alors vous voyez, pour répondre à votre question, il faut surtout relier tout ça aux finalités. C'est-à-dire aux objectifs qui sont repositionnés derrière. Vous avez dit, en rebondissant sur ce que j'avais moi-même annoncé, vous dites, il semblerait qu'au début des années 60, on ait une grosse évolution. Ouais. En réalité, c'est lié, il y a une forme de continuité, parce qu'on est dans une finalité patriotique. Et on est exactement dans celle-ci aujourd'hui en 2024 avec un gouvernement qu'on va interroger régulièrement sur le nombre de médailles olympiques attendues. Si on a réagi au début des années 60, c'est parce que le bilan en termes de médailles olympiques avait été catastrophique. Et il y avait si peu de médailles, de mémoire c'était 3 médailles de bronze, qu'on s'est dit c'est pas possible, dans le cadre en plus de la guerre froide entre les États-Unis, entre l'URSS qui accumulait les médailles, la France elle ne pouvait pas rester à côté. On est dans la même idée d'indépendance. Donc la finalité, en tout cas, il n'y a pas un bouleversement sociétal. Il y a surtout une finalité patriotique qui est maintenue. Pourquoi je dis qu'elle est maintenue? Parce que cette finalité, on la retrouve aussi à la fin du 19e siècle. Il y a déjà une finalité patriotique qui n'est pas liée au sport cette fois-ci, mais à l'éducation physique, à travers la gymnastique, à travers la préparation militaire que l'on va assigner, qu'on va donner aux jeunes garçons. Il y a un constat qui est fait, qui est on a perdu la guerre de 1870-71 parce que la jeunesse a été moins forte sur le plan physique que la jeunesse prussienne devenue allemande. Donc, il faut pratiquer de l'éducation physique. Vous voyez, donc il y a à la fois continuité, il y a un changement, mais j'ai presque envie de dire, c'est pas un vrai changement, c'est une inflexion opportuniste à la limite par rapport aux Jeux Olympiques, on va le retrouver jusqu'à aujourd'hui. Puis l'exemple que je donnais sur la balle au panier, c'est un exemple de stéréotype de genre qui a été véhiculé par les dirigeants masculins et par une société masculine qui positionne sur les jeunes femmes cette idée que c'est un sport qui peut convenir. Et sans doute que si vous-même qui pratiquez peut-être le basketball, vous connaissez une des règles majeures de ce sport qui est « no touch », pas de contact. Et comme c'est l'Église catholique en majorité qui a diffusé ce sport qui venait des protestants, mais qui a été diffusé dans les patronages catholiques, l'ASVEL, par exemple, elle est héritière d'un patronage à la fois catholique et d'un club communiste. C'est le plus grand club de basket français. Eh bien, l'Église catholique, cette règle du non-contact, pas de contact, et qui explique aussi notre rapport sociétal, global, notre histoire, cette difficulté que l'on a finalement à ne pas être une nation sportive en quelque sorte, parce qu'il y a hiérarchisation, il y a une méfiance, elle s'explique aussi par cette histoire religieuse, et l'Église catholique, elle a trouvé dans ce sport qui ne favorisait pas les contacts corporels, le sport pour lui, idéal. Mais la finalité, et je m'arrête sur ça, c'est que c'est une finalité démographique qu'il y a derrière. C'est une finalité procréatrice. On veut faire du sport aux jeunes femmes pour qu'elles fassent des enfants.
Et justement, à ce propos, est-ce que l'éducation finalement nationale ne cherche pas à construire une certaine façon, une certaine image du corps, en fait, par l'éducation physique et sportive ?
J'aimerais bien, mais j'ai le sentiment que cette question corporelle, elle n'est pas abordée en tant que telle. On va l'aborder en termes de finalité, cette éducation physique et sportive. Je viens de le dire, on veut des médailles olympiques, donc on met de l'argent sur l'INSEP, sur le programme 2024, sur des colloques, sur... Voilà, on veut des médailles olympiques. On veut lutter contre la sédentarité. Si on pouvait se dire ce que je viens de dire à l'instant, si on se dit, cette finalité, j'ai envie de dire, procréatrice, cette finalité sanitaire, être en bonne santé, faire des enfants, c'est fini. Ben non. Aujourd'hui, on a une réflexion sur la sédentarité, sur l'après-Covid, sur la lutte contre l'obésité. Donc, on a aussi une continuité, et donc, dans la finalité sanitaire. Donc, vous voyez, j'ai pas le sentiment, vous me disiez, pour votre question, vous pouvez me la
Oui, pas de souci, est-ce qu'en fait, l'éducation physique et sportive ne favorise pas une certaine image du corps ? Est-ce qu'on n'a pas une certaine construction du corps par les programmes de l'éducation nationale à travers cette matière, précisément ?
Alors, à mon sens, et j'espère que dans le reportage ou dans les éléments complémentaires, à mon sens, il n'y a pas une réflexion globale sur le corps, justement. On entre dans la problématique par la finalité. Vouloir lutter, ce qui est déjà intéressant, mais vouloir lutter contre l'obésité et avoir des médailles olympiques d'une certaine manière. Mais une vision globale du corps dans notre système scolaire, on ne l'a pas.
Donc c'est vraiment lié à la performance, en fait, vu que la finalité, c'est d'avoir des médailles olympiques.
C'est un des axes, voilà. D'accord. Et si vous voulez, les professeurs de PS, par exemple, ils ont été longtemps, non pas divisés, mais nourris par trois types de courants. Vous avez des professeurs de PS qui se sentent plus sportifs, entraîneurs, donc nourris par la performance, ce que vous venez de dire. Vous avez des professeurs qui considèrent que le sport, tout à l'heure vous avez dit, est-ce que le sport a toutes les belles valeurs ? Mais vous avez des éducateurs qui considèrent que le sport n'a que de mauvaises valeurs. Et donc qui ne voudraient ne pas en entendre parler. Ils ne voudraient qu'on en fasse que de l'éducation physique au sens noble, c'est-à-dire éducation du corps, ce que vous venez de dire. Là, on serait éventuellement dans une réflexion uniquement corporelle autour de cette problématique. Et enfin, vous avez quand même la majorité qui veulent y associer les deux, éducation physique et sportive, dans un but de démocratisation.
On enchaîne aussi. On a parlé de la sédentarité dans l'intro, justement. D'après l'assurance maladie, 20% des 6 à 17 ans sont en surpoids en raison notamment d'une alimentation trop riche et d'un manque d'activité physique. Quelle est la part de responsabilité, d'après vous, de l'école dans cette situation-là ?
Alors, j'ai envie de dire, grand, ce serait sévère, mais l'école a une part de responsabilité. Si vous voulez, si on a l'injonction, là, dernièrement, d'une demi-heure de sport par jour, ça veut dire que, en réalité, par rapport à l'image qu'on a du sport ou de l'EPS, parce que je devrais redire l'EPS, ça passe un peu en dernier. C'est-à-dire, à la fois, on était confronté à une crise sanitaire qui a fait qu'on a eu beaucoup de sédentarité et de jeunes qui sont... Et là, on avait des inégalités sociales qui sont restées, en quelque sorte, devant leur écran et qui ont été confrontées à cette sédentarité. Et l'école, elle devrait lutter, sauf que, parfois, on en arrive à ne pas faire les heures allouées à l'école ou avoir des difficultés à le faire. Il ne faut pas jeter la pierre aux enseignants. Des fois, les enseignants, ils ont aussi des difficultés dans le matériel, des difficultés matérielles ou spatiales. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un horaire officiel, si vous avez un stade ou si vous avez peu d'équipement, un gymnase ou un terrain. Ce matin, je discutais avec un professeur des écoles qui vient juste d'avoir le concours, mais qui lui-même avait été animateur sportif autour de Béziers, de Bessan, autour du tambourin. Et il m'expliquait qu'il y avait de nombreuses écoles qui n'avaient pas de terrain. Il arrivait, il fallait se déplacer. Donc, il se retrouvait dans le pire des cas, dans un terrain qui n'était pas du tout adapté. Toute son activité, elle tombait à l'eau. Parce qu'on a cette difficulté de trouver cet espace-là. Et en plus, des enseignants, parfois, qui ne se sentent... pas formés ou qui considèrent qu'ils n'ont pas les aptitudes pour véritablement faire un cours de PS, même si d'autres le font avec toute leur énergie, le font très bien. Il ne s'agit pas de relever les difficultés. Et malheureusement, parfois, avec la lourdeur des programmes, eh bien, entre les injonctions institutionnelles qui sont d'aller mettre le paquet sur le mat les Français, eh bien, un enseignant débutant notamment, il va dire « bon, ok, bah, la récréation, ce sera le PS ».
D'accord. Et encore pour vous relancer sur un autre sujet, pour vous, quelles mesures on pourrait mettre en place pour changer les méthodes d'apprentissage qui sont basées sur l'immobilité, en gros, qui contribuent à la sédentarité? Alors, notamment pour les besoins de l'émission, on a notamment vu que certains de nos voisins flamands en Belgique mettaient en place des cours sur des tapis roulants pour faire travailler en plus la mémoire kinesthésique basée sur le mouvement. Et même certaines autres écoles à Mayenne mettent en place des systèmes de pédales. C'est des élèves qui pédalent pendant les cours, justement, avec des petites pédales installées juste en dessous des bureaux. Est-ce que vous pensez que ce serait ce genre de solution qui serait utile en France, ou est-ce que vous avez d'autres idées?
Alors ça, c'est une solution qui est absolument intéressante, cette idée du mouvement. Et ça, si vous voulez, ça fait référence à une notion sociologique qui s'appelle la forme scolaire, qui a été formulée par un sociologue qui s'appelle Guy Vincent au début des années 80, mais globalement qui nous parle de la forme moderne de l'école. C'est-à-dire que depuis le milieu du 19e siècle, mais surtout la fin du 19e siècle, on a une forme scolaire qui a enfermé les enfants entre quatre murs et qui a du mal à supporter le mouvement. Donc, ce que vous évoquez, on va le retrouver dans les pédagogies alternatives, on va le retrouver dans les propositions d'éducation nouvelle, on va les retrouver dans des réflexions qui sont menées à l'étranger, vous avez raison, mais aussi en France parfois, cette idée que finalement, par le mouvement, on peut mieux apprendre. Évidemment que c'est une solution possible, mais ça va, j'allais dire, rentrer en concurrence et en confrontation avec toute une histoire de la forme scolaire, c'est-à-dire des enseignants qui sont habitués aussi à une forme scolaire qui les rassure, parce que le mouvement, c'est automatiquement une prise de risque. Ça peut être une prise de risque pour l'enseignant, mais il y a de vrais intérêts en termes de mémorisation, il y a un vrai intérêt en termes de reprise de concentration, en quelque sorte. Et pourtant, l'école scolaire, elle avait prévu un mouvement, mais vous allez voir, il est ridicule. Ce mouvement, c'était quasiment, je ne vais pas le faire par rapport au micro, mais c'était décaler sa tête sur la gauche pour regarder par la fenêtre. Mais on voit parfois sur les documents officiels, sur des peintures officielles, que les enseignants avaient même bouché les fenêtres en question en pensant que les enfants seraient distraits à regarder par la fenêtre. Or, ça avait été pensé, dès le 19e siècle, c'est une nuance par rapport à tout ce qu'on nous dit, ça avait pensé pour retrouver de la concentration. Je m'évade un petit peu, j'ai bougé ma tête, vous voyez, c'est que la tête. Et puis, quand juste quelques secondes après, eh bien, normalement, je suis de nouveau en capacité d'écoute. Donc, évidemment que c'est une solution, le mouvement, et que ça amène à, en quelque sorte, une révolution pédagogique.
Alors, sans transition, on va maintenant s'intéresser à la situation dans les autres pays avec notre chronique « Ailleurs, c'est comment ?»
Hi, Wolfgang Gorde. Dans cet épisode de la chronique « Ailleurs, c'est comment ?», je vous emmène dans les pays du Nord, là où il fait froid, et plus précisément au Danemark. On pense souvent que les pays scandinaves sont en avance sur nous autres, pays d'Europe centrale. Est-ce bien vrai lorsqu'il s'agit d'éducation sportive? Depuis une réforme de 2014, 45 minutes de pratique physique et sportive par jour sont obligatoires à l'école au Danemark. Mais c'est aussi, plus largement, repenser le fonctionnement de l'école pour encourager le sport chez les enfants. En plus de ça, un programme est mis en place en 2016 dans de nombreuses écoles. On associe l'éducation à la santé à des cours de football. Oui, oui, vous avez bien entendu, du football. En collaboration avec la Fédération danoise, l'Université du Danemark du Sud a mis en place cette initiative de 11 semaines qui combine des conseils pratiques et le jeu du ballon. Après un premier test, une étude sur plus de 3000 élèves a montré une augmentation significative de leurs connaissances en santé d'environ 10% dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique et du bien-être. En plus de tout ça, Le projet École Ouverte propose des activités sportives dispensées par des éducateurs de différents clubs directement à l'école, pendant les après-midi libres ou après les cours. Toute excuse est bonne pour se bouger. Pour illustrer tout ça, allons à la découverte de l'école Kalvebodfeldet à Copenhague. Inaugurée en 2018, elle se démarque par son accent sur l'activité physique et surtout sur le mouvement spontané. Conçue dans le cadre de la réforme de 2014, elle encourage le jeu libre chez les enfants, qui permettrait une canalisation de l'énergie pendant l'apprentissage et une meilleure concentration. Bien que la réforme éducative danoise ait souhaité un déploiement à l'échelle nationale, des défis subsistent, notamment à l'adaptation des salles de classe traditionnelles, c'est-à-dire des tables et des chaises alignées face à un tableau, et la formation des enseignants. Malgré tout, la directrice de l'école reste enthousiaste de ce programme, pour le moins mouvementé.
Merci Camille. Fabien Gröninger, est-ce que le modèle danois serait un exemple dont la France devrait s'inspirer ou en avez-vous d'autres en tête ?
Alors, ce que je viens d'entendre et ce que je connais déjà de quelques exemples de ces pays nordiques, par exemple, là on a évoqué le modèle danois, mais on aurait pu parler du modèle finlandais qui développe le programme Finnish School on the Move et qui reprend cette idée-là. Pour moi, très clairement, oui, on doit s'adapter de ce modèle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une vision globale de la problématique. C'est-à-dire qu'il y a une non-hiérarchisation des matières. On a entendu parler football, on aurait pu avoir des associations entre sciences sociales et les activités physiques. Il y a une volonté de prendre à bras le corps, si j'ai envie de dire, le problème en évitant cette hiérarchisation qu'on va retrouver parce qu'il y a une histoire séculaire, notamment religieuse, qui vient d'une méfiance que l'on a en France dans nos traditions intellectuelles sur le corps et une hiérarchisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Eh bien, on l'a beaucoup moins dans les pays nordiques avec une vraie volonté de considérer que c'est un programme global. Alors, il y a un socialiste libertaire qui a théorisé ce concept en France. C'est l'éducation intégrale qui est repris aujourd'hui par certains organismes catholiques, mais avec une vision beaucoup plus restrictive que ce qu'elle était proposée. Donc, cette idée d'une éducation complète, intégrale, qui toucherait, finalement, qui permettrait d'aborder toutes les facettes de l'enfant, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que le modèle nordique doit inspirer, aurait beaucoup d'intérêt à inspirer la France.
Merci Fabien Gröninger d'être venu dans ce studio. L'heure de colle, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission qui lève le voile sur l'éducation. La prochaine fois, vous retrouverez Flavien Delcoq, le banner, pour parler de l'éducation aux médias. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée sur Divergence FM.
Ce qui a modifié, évidemment, la pratique des enseignants en éducation aux médias et l'information.
On a 45 absences pour ce matin.
C'est bien évidemment l'apparition des plateformes de médias sociaux.
Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre.
Son école, il ne veut plus en franchir la grille.
Selon une étude, un quart des écoles ne propose aucune éducation à la sexualité.
Pour l'instant, l'institution ne prend pas la mesure du mal-être dans l'éducation nationale, ça c'est sûr.
Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde.
C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système, en fait.
Bienvenue dans l'heure de colle.